attend d'une certaine manière les épisodes. Donc, je ne sais pas si vous attendez le cours, mais au moins on attend l'épisode. On sait que l'épisode, bientôt, il y aura. On va arriver avec les schémas de cadavier. D'ici là, vous aurez un autre passage que vous disiez maintenant qui sera un peu plus austère. Voilà, qui parlera de liturgie et qui parlera de. Après, il y aura un schéma de cadavier. Voilà. En plus, ça suivra à peu près le temps liturgique, donc ce sera très bien. Mais là, nous sommes dans la page, une des pages les plus sombres du livre de l'Exode, les plaies d'Égypte. Alors évidemment, vous avez tous lu, j'imagine, hein, je ne me pose même pas la question, parce qu'il est évident que ce que nous faisons ici, c'est une lecture biblique qui suppose que qu'on lise le texte en amont. En fait, une fois que vous avez lu attentivement le texte, vous avez gagné l'essentiel. Ce que je vous dis a pour but de vous permettre de revenir au texte et de vous en nourrir. Voilà, hein, c'est donc la lecture est essentielle. Apprendre des choses sur le texte biblique, c'est bien, mais ça n'a strictement aucun intérêt pour un chrétien qui veut vivre sa foi. Donc il ne s'agit pas d'apprendre des choses. Il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses sur la Bible qui n'ont jamais lu la Bible. Voilà. Ils croient qu'ils savent des choses. Voilà. Donc nous, le but, c'est de lire les Écritures. Voilà. Avec Jésus, dans la foi, et ça suppose d'abord, bien sûr, d'ouvrir le livre et de les lire. Donc l'acte de lecture n'est pas anodin. Je dis ça parce que je vois combien de personnes lisent parfois un peu rapidement, un peu superficiellement, et puis après ils vont chercher des renseignements, ils vont chercher des livres, et ils vont voir des théories. Alors qu'en fait on dit, mais avant de prendre le livre, lisez attentivement le texte, posez les questions, faites ressortir les questions. Voilà. C'est longue parenthèse, longue prélude, longue préface, je sais pas quoi, mais c'est important de vous le redire. Il s'agit de lire le texte. Alors, vous souvenez la dernière fois, nous, d'abord, avant d'entamer le thème du jour, est-ce qu'il y a des questions, hein? Il semble que cette méthode de proposer des questions fait s'évaporer toutes les questions éventuelles. Si je supprime la méthode, peut-être que les questions vont apparaître. Hein? On aura des questions, mais voilà. Donc, si je vous dis... Ah, voilà, il y a Marie-Josée... Oui.
Parce que au cours du récit, tout d'un coup, je ne sais pas comment ça se passe.
Mais... J'ai du mal à entendre parce qu'il y a le. Oui.
On a un récit qui va. Au milieu du récit, tout d'un coup, on nous dit que Dieu cherche à faire mourir Moïse.
Ah oui.
Et puis, il y a le.
Oui.
Et ça, je n'ai pas très bien compris.
Oui, c'est un très court passage où Moïse est en terre étrangère et sur le chemin, il est entre son beau-père Jéthro et l'Égypte. Il y a une scène très très curieuse avec la circoncision de son fils. Il est question du sang qu'on va poser, que sa femme va répandre. Alors, on ne va pas beaucoup s'arrêter dessus. Ça fait partie des textes un petit peu plus difficiles que la tradition a voulu conserver, qui montre que Moïse est toujours en situation de... Enfin, il y a comme un danger de mort, il y a la question de la mort qui se pose, hein, et le Seigneur va le préserver à ce moment précis. Hein. Mais c'est une exégèse qui n'est pas essentielle pour la cohérence du récit. Hein. Il y a l'Exode a peu de ces textes, il y a d'autres livres bibliques qui en ont plus, mais des textes qui ont été conservés par la tradition et qui sont... qui font partie de la cohérence d'ensemble, mais qui ne sont pas essentiels. Voilà, c'est un des textes les plus mystérieux. On voit Moïse qui est comme au bord de la mort et que le Seigneur va préserver. C'est déjà finalement la question du sang qui préserve. Hein. Ensuite, après Moïse, préservé de la mort par le sang, eh bien, ce seront les Hébreux qui vont être préservés de la mort par le sang. Et finalement, ben, ça va être le thème aussi du sang dans le Nouveau Testament. Hein, le sang de l'agneau, le sang du Christ qui nous libère des péchés.
Voyez. Et puis il y a autre chose que j'ai remarqué, en fait, qui a attiré mon attention, c'est que quand Dieu parle à Moïse, et Moïse lui dit, pour l'envoyer premier phare, le roi d'Égypte.
Oui.
Moïse lui dit, je ne sais pas parler, qu'est-ce que je vais lui dire, il ne faut pas me croire, en fait, bref.
Oui.
Il donne tout ce discours-là. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas de savoir ce que tu vas lui dire, c'est moi qui te donnerai les paroles à ce moment-là. Et donc, ça m'a fait penser à Jésus.
Bien sûr. Alors voilà, mais c'est une illustration du fait que quand on lit les évangiles, si on n'a pas l'arrière-fond de l'Ancien Testament, on passe à côté de richesses considérables. Quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, l'Esprit Saint vous sera donné », et de fait, la question est posée très matériellement, très concrètement par Moïse, parce qu'il bégaye, parce qu'il a du mal à parler. Alors c'est aussi une manière pour lui de dire « j'ai pas envie d'y aller hein, ». Il essaie de trouver des excuses. Vous savez, quand on essaie de trouver des excuses, on est là, alors on dit « voilà pourquoi je peux pas faire ». Celui qu'on a devant nous va dire « mais ça tient pas, enfin, tu peux quand même ». Alors trouve une deuxième excuse. Puis à la fin, plus ça va, et plus Moïse, il sait plus quoi dire. Alors il trouve le dernier truc hein, « je vais pas parler ». Et ben le Seigneur, mais dans ce cas-là, je vais te mettre « Aaron sera ta bouche ». Voilà, hein. Il y a une bouche, il y a Aaron. Et puis toi, t'es juste la parole. Alors comme ça, la parole, elle va passer par Aaron. Alors Moïse, là, il ne peut plus rien dire. Ouais, c'est Seigneur, je crois que c'est bon. 4-0, donc là, il est obligé d'y aller. Voilà. Mais oui, de fait, on en a parlé la dernière fois, mais ça veut dire que Moïse a fait l'expérience concrète de son incapacité devant Dieu, et ça ressortira dans le Nouveau Testament, que l'homme ne soit pas capable, Dieu est au courant, eh bien, Dieu donne lui-même le moyen d'accomplir la mission qui nous est confiée. Voilà, c'est quand Dieu confie une mission, il donne toujours le moyen de l'accomplir. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions ? Eh bien, nous y allons. Voilà, alors, la dernière fois, nous avons lu ce passage que Marie-Josée nous a rappelé, donc l'épisode du buisson ardent et la vocation donnée à Moïse. Hein, c'est ce passage qui, après l'introduction, les chapitres 1 et 2, la situation d'Israël en Égypte, le récit le grand récit de l'Exode, le drame, si on peut dire, va commencer avec la théophanie, dans laquelle Dieu promet à Moïse d'être avec lui, et il va intervenir. Vous vous souvenez de la parole très importante qui était dite par Dieu à Moïse, « j'ai vraiment vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, c'est pourquoi je suis descendu hein ». Donc Dieu a vu la misère de son peuple, il va descendre et il va intervenir. Hein, on avait vu comment l'introduction s'était interrompue de façon assez brutale et on voit qu'on bascule immédiatement dans les événements, dans le récit. Alors comment Dieu va-t-il intervenir ? Tout d'abord auprès de Pharaon pour qu'il laisse partir Israël, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et puis dans un deuxième temps, eh bien, en faisant sortir Israël d'Égypte. Donc là, c'est le passage aux actes. Par-delà le refus de Pharaon, il y a d'abord une parole qui est adressée à Pharaon et ensuite une parole qui sera adressée à Israël. Il y a comme deux séquences qui sont bien distinctes, par lesquelles Dieu va intervenir. Donc nous allons commencer en regardant le premier péricope, le premier passage que j'appelle un prélude, hein, qui pose un peu les personnages. Ensuite, nous verrons les neuf signes, les fameuses plaies d'Égypte. Et puis, vous avez remarqué, il y a déjà un indice de la réponse que vous allez bientôt trouver, de la réponse de l'énigme des plaies. Je dis qu'il y a neuf signes et il y a une plaie. Voilà. Mais je croyais qu'il y avait 10 plaies. Voilà. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça. Tout d'abord, le prélude. Une fois revenu du désert, Moïse va rencontrer Pharaon, hein, comme le Seigneur lui avait demandé au pied du Sinaï, donc cette fameuse scène de la vocation. Hein, « Je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple d'Égypte. » Là, on a le résumé de toute la feuille de route de Moïse. « Je t'envoie vers Pharaon. » Donc il y aura une confrontation entre Moïse et Pharaon, et le but, ce sera de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc cette rencontre, cette première rencontre avec Pharaon, introduit l'épisode connu sous le nom de plaie d'Égypte. C'est l'épisode que tout le monde connaît, sur lequel on a entendu parler de très nombreuses fois, avec toutes sortes d'idées, sans que on ait eu forcément l'occasion de lire le récit. Ben, ce soir, on va essayer de le lire. La question centrale, c'est celle qui est posée par Moïse. Pharaon écoutera-t-il le Seigneur, hein, qui, par sa bouche et par la bouche d'Aaron, lui demande de laisser partir les Israélites. C'était déjà, cette question était la conclusion du récit de la vocation de Moïse. Eh bien, c'est la conclusion de la première partie. Eh bien, cette question va ouvrir la deuxième, hein, comme une agrafe entre ces deux morceaux. Pharaon écoutera-t-il le Seigneur ? Et ce long passage sur les plaies d'Égypte se conclura par le constat du refus de Pharaon, hein, dont le cœur s'est endurci. C'est le thème central de ce passage. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Il y a une présentation d'ensemble, chapitre 6, verset 28 à 7, verset 7. Ensuite, le récit d'un premier prodige. Il faut faire attention aux termes qui sont employés. Un premier prodige, chapitre 7, verset 8 à 13. Le corps du texte est constitué par les 9 signes, chapitre 7 à chapitre 10, et à la fin, au chapitre 11, il y aura le 10e signe qui est la véritable plaie. Alors arrêtons-nous rapidement sur ce premier prodige, hein, c'est donc pas encore un signe, un récit, d'ailleurs je vous ai mis une peinture de Nicolas Poussin au dos, hein, c'est intéressant de regarder comment ça a été interprété dans l'art. Une peinture du Louvre, il y a cette scène un peu étonnante où on voit Moïse et Aaron avec le bâton qu'ils ont en main, que Dieu leur a remis, et ils changent le bâton en serpent. Et alors, manque de chance, parce que je ne sais pas si vous imaginez, vous avez quelqu'un un bâton, il lance son bâton au sol, et le bâton devient un serpent. Quand même, ça en jette. Hein, si vous arrivez à me faire ça, chapeau, hein, on peut tenter le coup la prochaine fois. Voilà. Mais manque de chance, les magiciens de Pharaon arrivent et ils en font autant. Là, je pense que la tête de Moïse et Aaron à ce moment-là, elle devait en dire long sur leur disposition. Voilà. Alors, je vous rassure, Moïse et Aaron vont remporter la première manche puisque leur serpent va dévorer celui des magiciens. Mais franchement, le résultat n'est quand même pas très concluant, parce que là on est en train de basculer dans une scène un peu fantaisiste avec un certain humour, hein. Tac, mon bâton devient un serpent, tac, le nôtre aussi, tac, le mien mange le vôtre, ah zut, tu nous as eu, hein. Est-ce que c'est comme ça que Dieu va sauver son peuple? Voilà. Donc qu'est-ce qui nous a marqué dans ce récit? C'est le fait que à Moïse et à Aaron, on fait un prodige. Mais un prodige, Dieu n'a pas besoin de prodige pour intervenir, hein, puisque les prodiges, les païens sont capables d'en faire. Et de fait, face à cela, peut-être que Pharaon a souri, en tout cas, son cœur s'est endurci et il n'a pas écouté Moïse. Hein. Le cœur de Pharaon s'endurcit et ne les écouta pas, comme l'avait prédit le Seigneur. Ce n'est pas en faisant des prodiges que Moïse va marquer la différence. Des prodiges, les magiciens savent très bien en faire, ce ne sont que des tours de passe-passe. C'est vrai que, vous direz, oui, d'accord, bâton changé en serpent, on verra le Seigneur faire des prodiges encore plus impressionnants. Quand même, les prodiges, ça marque son bonhomme quand on assiste à un prodige. Mais en tant que tel, ce qui compte et ce qui interviendra, ce n'est pas le prodige en tant que tel, mais sa signification. Il s'agira davantage de signes que de prodiges. Devant le même événement, qu'est-ce qui compte? C'est soit le côté un peu surprenant de la chose, donc le prodige, ce que nous comprenons des miracles, soit c'est le signe. Vous savez que cette problématique, on la retrouvera dans l'Évangile. Il y a le terme de prodige dans l'Évangile, il n'apparaît qu'une fois, à propos des miracles de Jésus. les miracles de Jésus sont appelés davantage, sont appelés des dynamis, hein, des actes de puissance. Et Saint Jean, les miracles, il leur donne le nom de signes, vous le savez. Hein. Et donc, Jean donne le sens théologique des prodiges que fait Jésus. Et quand on verra Hérode dire à Jésus, fais un miracle, en fait, fais un prodige. Fais un prodige, change ton bâton en serpent, amuse la galerie. Et Jésus ne fait rien. Et quand Jésus fait des miracles, les gens disent, ah, extraordinaire, il a changé le bâton en serpent, il a fait des miracles. Mais ils n'ont rien compris, ils n'ont pas compris que c'était des signes. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Évangile, on dira, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles, parce qu'il n'y avait pas de foi. Alors c'est très bien, c'est les Égyptiens, c'est les Hébreux, c'est l'Évangile, mais c'est nous aussi. Parce qu'il faut bien reconnaître que pour nous, ce qui est marquant, c'est quand il se passe quelque chose. Ah, c'est bien la preuve que Dieu existe. Vous avez vu, hein, il y a un truc là, ouais, c'est sûrement, c'est impressionnant, ça en met plein la vue. Eh bien ça, cette approche du miracle, Jésus s'en méfie énormément parce qu'on voit que devant un prodige, Pharaon s'est endurci. Et on va voir que même devant les signes, il peut y avoir encore un endurcissement. Que le signe lui-même est une pédagogie, mais qu'il faut bien que ce soit compris comme une pédagogie. Alors, maintenant, attaquons-nous aux 9 signes. D'abord, je vous fais une présentation d'ensemble. Ça me semble très important pour qu'en lisant le texte, nous voyons à peu près de quoi il s'agit. Ensuite, nous regardons comment le récit est structuré, parce qu'il est très très bien structuré. Et ensuite, nous verrons la succession des 9 signes. Et puis, la grande question qui se pose pour nous, qui est une des questions les plus importantes de la Bible, pourquoi Dieu endurcit-il le cœur de Pharaon ? Voilà, je pense que vous avez tous cette question, c'est la grande question. Alors d'abord, les signes. Voilà, j'en viens à cette fameuse question du rapport entre les signes et la plaie. On a l'habitude de parler des plaies d'Égypte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une plaie ? Les médecins pourront nous le dire, une plaie c'est un mal physique qui frappe quelqu'un. Et c'est vrai que les actions menées par Moïse et Aaron ont un caractère de punition infligée à Pharaon pour son refus de laisser partir le peuple. Et ce point de vue n'est pas absent de la Bible. L'idée que ce que Moïse et Aaron vont faire, ça fait mal. Vous imaginez plein de temps, des guêpes ou des temps, je sais pas quoi, partout qui arrivent, vous essayez de vous en débarrasser, il y a plein de grenouilles partout, vous le soir vous mettez dans votre lit, trrr, il y a plein de grenouilles, les sauterelles qui arrivent, qui vous montent dessus, enfin c'est effrayant quoi. Donc évidemment ça fait mal, mais l'intention de Dieu ce n'est pas de faire mal. Très intéressant de voir comment nous lisons la Bible, nous attribuons à Dieu des pensées qu'il n'a pas forcément. Est-ce que Dieu a dit qu'il voulait faire mal ? Pas ça qu'il dit. Il dit je vais multiplier les signes et les prodiges. Je vais multiplier ces signes pour réveiller le cœur de Pharaon. Ce que Dieu veut, c'est de changer le cœur des Égyptiens et de Pharaon, pas de faire mal. Donc ne nous trompons pas. Il y a 9 signes. Dieu dit « je multiplierai les signes ». Il ne dit pas « je vais multiplier les plaies ». C'est notre relecture qui fait que nous disons que ce sont des plaies. La grande question, la question importante, et ça vaut pour tout le livre de l'Exode, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation que, alors ça il faut bien le comprendre, je vous en ai déjà parlé au moins lors de la deuxième rencontre à propos de l'esclavage des Israélites, et que Pharaon veut se mettre à la place de Dieu. Il faut qu'il découvre, qu'il comprenne qui est le Seigneur, et qui il est lui. Cette tentation pour l'homme de se construire sans Dieu, et quand il s'agit d'un roi, c'est-à-dire de celui qui va gouverner un peuple, celui qui veut se mettre à la place de Dieu. Et c'est pourquoi il y aura ce leitmotiv, le Seigneur dit, Pharaon et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Et ce ne sera pas simplement une information. Savoir qui est le Seigneur, c'est on en a fait l'expérience. Il faudra que Pharaon fasse l'expérience, qu'il n'est pas Dieu. Donc c'est une question qui est extrêmement grave, parce que on entre dans un drame, comme je le disais tout à l'heure, entre la puissance de l'homme, qui essayent de se déployer sans Dieu et même contre Dieu, eh bien, il faut que Dieu arrive à atteindre le cœur de l'homme pour que l'homme comprenne qui est le Seigneur. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Dieu va montrer sa puissance. C'est davantage le point de vue de l'auteur sacerdotal. Je ne reviens pas sur ce que j'avais dit à l'introduction cette année, et puis pour ceux qui étaient là l'an passé, il y a un auteur yaviste, un auteur sacerdotal. C'est une présentation qui est qui est utile, même s'il ne faut pas s'y arrêter. Au moins, on va dire, il y a deux sources, une source yaviste, une source sacerdotale. Voilà. Dieu va montrer sa puissance en accomplissant des prodiges et surtout des signes. En hébreu, signe, c'est ot. Les signes et les prodiges. Ot et les niflaot, les signes et les prodiges. Neuf signes et prodiges qui n'auront pas d'autre effet que l'endurcissement de Pharaon. Alors on va l'évoquer rapidement tout de suite. Le dixième signe, ce ne sera plus simplement un signe, ça aura une valeur de signe, mais là ça deviendra véritablement une plaie, c'est-à-dire une souffrance, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que les signes mettent en branle les éléments naturels. Alors il y a le fleuve, les nuages, les animaux, les temps, les grenouilles. Il y a probablement une critique de la religion égyptienne dans laquelle les animaux étaient divinisés. Si vous allez au Louvre, vous verrez, on voit des objets très beaux d'ailleurs, en turquoise ou en terre cuite, émaillée ou tout ce que vous voulez. On voit des animaux qui sont divinisés. Donc cette critique est fort probable dans ce récit. On voit aussi dans ces signes et prodiges une évocation du chaos originel et de la création. Dieu qui a créé le monde en est le maître. Je vous ai dit, avec Pharaon, l'orgueil de Pharaon est tel qu'il se met à la place du Créateur. Donc c'est la création qui est convoquée. Ce sont les éléments du ciel, de la terre, de l'eau, des nuages. Dieu manifeste sa puissance créatrice à travers les signes et les prodiges. Alors c'est intéressant parce que ça montre bien, ça confirme bien que l'idée, après le tour de passe-passe, qui nous a un peu amusé du bâton transformé en serpent, le but de Dieu, c'est pas de dire « je vais vous mettre plein de poudre aux yeux avec des trucs complètement bizarres ». Je sais pas quoi, une espèce de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, le ciel qui devient complètement... le ciel qui devient orange, par exemple, avec des taches bleues au milieu. Donc c'est un truc complètement insensé. Voilà. Comme ça qu'on imagine les prodiges que Dieu fait. Non, pas du tout. Les signes que Dieu fait, c'est la nature dont les lois ne sont pas inversées, mais plutôt accentuées. À tel point qu'au XIXe siècle, on a essayé de trouver des explications naturelles, et on n'était pas loin de les donner, en disant comment, la mortalité du bétail, ou pourquoi les os qui deviennent rouges, c'est quand il y a de la matière ferrugineuse, et puis les poissons vont pourrir, ça va faire venir des moustiques, à partir de là, les grenouilles vont être obligées de quitter le fleuve et tout envahir. Enfin, il y a eu toutes sortes d'explications au 19e, qui peuvent nous faire sourire aujourd'hui, mais qui montrent qu'en effet, on a bien compris que les signes, ce n'est pas des tours de passe-passe complètement hallucinants, ce sont les lois de la nature qui sont comme amplifiées, mais qui ne sont pas inversées. Dieu reste le créateur, et bien il utilise la création pour que l'homme se rende compte que ce n'est pas lui qui est le maître. Voilà. Ce qui compte, en fait, ce n'est pas celle de la matérialité des phénomènes naturels, on se la pose tous. La question qu'on a tous présent à l'esprit en ce moment, c'est la question de l'historicité, que je n'aborderai pas ce soir, parce qu'on veut que les événements se soient passés matériellement comme ça. Alors, qu'il y ait une historicité, qu'il y ait des événements, sûrement, mais ce qui compte, c'est pas qu'il y ait des événements, ce qui compte, c'est la manière dont ils sont compris. Et ça, on le voit, c'est l'attitude de l'homme devant Dieu qui compte. Quand l'homme se rebelle contre Dieu, les éléments du monde se retournent contre lui, alors qu'il devrait le servir. Dans le récit de la création, l'homme est le maître de la création, mais au sens où il la respecte et il la reçoit de Dieu. Là, Pharaon se met au-dessus. Alors, le récit lui-même, la structure du récit. Les neuf signes peuvent être rangés en trois séquences de trois signes chacune. Vous avez neuf signes, 9, c'est bien, parce qu'on peut diviser par 3, ça fait 3 fois 3. Voilà. Pour chaque séquence, donc signe numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis ensuite numéro 4, numéro 5, numéro 6, puis ensuite numéro 7, 8, 9, eh bien, on va trouver la même structure. D'abord, Dieu demande à Moïse de se présenter lui-même à Pharaon le matin pour l'avertir du danger. Dans le second, Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour l'avertir. Et dans le troisième, on voit que ça devient plus dramatique. Aujourd'hui, on dirait plus chaud. Hein. Dieu demande à Moïse et à Aaron d'agir, mais sans avertissement auprès de Pharaon. Hein, il y a un moment où, comme Pharaon n'écoute pas, eh bien l'action va s'accélérer. Chacune des trois séances a un motif propre. On voit qu'il y a une progression. Première séquence de trois signes, deuxième séquence de trois signes, troisième séquence de trois signes. Alors, la première séquence, hein, Dieu manifeste sa supériorité. Et puis, de supériorité aussi de Moïse et Aaron. La deuxième séquence est intéressante parce que Dieu manifeste que non seulement c'est lui qui domine, mais il est présent dans le pays, il est tellement présent qu'il va protéger son peuple. Donc on voit la question du salut d'Israël commencer à poindre par opposition aux Égyptiens. Il y aura une séparation entre Égyptiens et Israélites. Et dans la troisième séquence, donc les trois derniers signes, cette grandeur de Dieu va apparaître de la façon la plus éclatante, hein, le caractère incomparable de Dieu, qui est suggéré par le fait qu'on n'a jamais rien vu de semblable, hein, aux plaies, à ces événements qui arrivent. Alors maintenant, si nous prenons non plus les séquences, mais chaque signe, il y a le même déroulement que nous avions déjà esquissé dans le prodige introductif avec le bâton changé en serpent. D'abord une introduction, avec avertissement ou non de Pharaon, puis le prodige naturel par la main de Moïse et Aaron, puis l'endurcissement de Pharaon. Ça va revenir sans cesse, avec des variantes, sur lesquelles je ne m'arrête pas, des variantes dues à la progression narrative, notamment, par exemple, les magiciens qui étaient dans le coup au début, alors ils sont un peu plus sérieux que Pharaon, ils voient qu'à un moment il faut arrêter. Hein, ils étaient efficaces au début, à la fin ils ne le sont plus, eh bien ils disent dans ce cas-là on jette l'éponge. Pharaon, lui, il est inflexible, et quand il semble céder, eh bien, en général, il revient sur sa décision et il s'endurcit encore plus. Voilà. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une progression des signes. Hein. La nature inanimée, on commence avec la nature inanimée, avec l'eau changée en sang, puis des petits animaux qui font des ravages qui ne sont pas mortels. Avoir des grenouilles qui se baladent dans votre dos, ça fait comme ça, hein, mais ce n'est pas mortel. Hein, voilà. Puis le bétail qui va mourir, et puis les hommes qui vont être atteints dans leur corps. Hein, puis finalement la grêle qui fait des morts, les sauterelles qui anéantissent toutes les récoltes, les ténèbres qui rappellent le chaos originel, donc un retour au chaos originel. Voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment une progression dans laquelle la menace de la mort et la menace du retour au chaos originel se fait de plus en plus précise. Voilà. Et dans tout cela, eh bien, Israël est protégé. Israël est protégé, Israël est mis à part. Alors je vous ai déjà posé la question, et donc j'ai abordé la question, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Vous avez remarqué que pour l'instant il n'y a pas de gentils et pas de méchants, hein, c'est tout le monde est un peu à égalité, mais Israël... Pour l'instant, ce n'est pas Israël qui est au centre. Dieu met de côté Israël en vue du salut. Donc Israël est mis de côté. Pour l'instant, tout va se jouer avec les Égyptiens. Tout se joue avec les Égyptiens. Mais la protection d'Israël montre que Dieu prend quand même parti en sa faveur. Mais comme vous allez voir, pour l'Égypte, il y a aussi quelque chose, il y a une espérance. Voilà, la succession des neuf signes. Alors, prenons maintenant chaque séance, les unes après les autres. C'est un survol très rapide, parce que là, on pourrait y passer des heures, ce serait passionnant, mais je retiens quelques points de chaque séance. Voilà, ça commence avec l'eau qui est changée en sang. Comment l'eau peut-elle être changée en sang? C'est assez effrayant, Alors on peut s'imaginer, comme le faisaient les savants au XIXe siècle, que c'était des algues ou de... Enfin, on a eu toutes sortes d'explications, vous avez peut-être vu ça. Hein. Mais boire de l'eau changée en sang, ben on sait qu'on ne va pas pouvoir boire pendant longtemps. Hein. Ça ne touche pas Pharaon. Hein. La tradition juive dit... il se moque de Dieu. Hein. Pas d'eau, ben je boirai du vin. Hein. Il transforme le... Moi aussi, je suis capable de boire quelque chose qui est... Voilà. Alors évidemment, il y a l'humour de Pharaon, mais ça montre qu'il n'a pas bien compris qu'il y avait un message. Hein. Et puis on voit les magiciens qui font eux aussi les signes accomplis par Moïse et Aaron. Hein. C'est au troisième signe qu'ils se rendent compte quand même des limites de leur pouvoir, et ils admettent leur défaite hein, devant Pharaon, ils disent « le doigt de Dieu agit hein. ». Donc on passe déjà à un autre niveau. Et voyez, ce qui est terrible, c'est que Pharaon, il a quand même quelques signaux autour de lui, ces magiciens qui disent « attention, il se peut que ce soit vraiment le Seigneur ». Est-ce que Pharaon écoute ? Lui, non, il ne change pas d'attitude et il endurcit son cœur, comme c'était le cas déjà dans les deux premiers signes. Pharaon endurcit son cœur. Deuxième séquence, donc les trois signes suivants. Les temps, la peste du bétail, les pustules. Alors c'est là que Dieu réalise cette opération chirurgicale, il met Israël à part, hein, je mettrai à part la terre de Goshen, vous vous souvenez que c'est là que Dieu avait installé le peuple d'Israël. Voilà, donc ce sont les quatrième, cinquième et sixième signes. Et le sixième signe, comme je vous le disais un peu avant, le troisième signe de la séquence est toujours un peu plus fort, hein. Il y a quelque chose de décisif qui va se jouer, et bien là, pour la première fois, on voit Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Ça commence à être inquiétant. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et il en ira ainsi pour les 8e et 9e signes. Troisième séquence, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. C'est le 9e signe, le dernier qui va constituer un climax, une intensification maximale. De la tension, hein, du drame, tous les Égyptiens sont engloutis dans les ténèbres épaisses et pas les Israélites. Il y a cette opération chirurgicale qui met Israël à part. C'est un rappel du récit de la création. Hein, les ténèbres épaisses, hein, au début, il n'y avait que l'obscurité sur la terre, hein, eh bien, on est plongé dans cette obscurité d'avant la création. Hein, on peut dire que c'est une décréation. Ce thème de la décréation, on l'avait déjà eu avec l'histoire de Noé, hein, le retour au flot hein, qui engloutisse tout. Là, ce sont les ténèbres. Là, les Égyptiens prennent conscience que l'homme ne peut pas se mesurer avec Dieu. À ce moment-là, on se dit, ça y est, Pharaon se laisse enfin toucher. Hein, il essaye de se montrer bon négociateur avec les Israélites. Hein. Voilà, Pharaon appela Moïse et dit, allez et servez le Seigneur. Je ne cache pas que quand j'ai découvert un peu la lecture du livre de l'Exode, je me disais, c'est super, ça s'arrange. C'est grâce à ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Manque de chance, hein, Pharaon revient sur sa décision. L'idée de Pharaon, c'est, en gros, c'est, on peut discuter, mais il garde quand même ses idées derrière sa tête. Hein. Il s'endurcit, et c'est intéressant de voir comment dans son vocabulaire, sa manière de parler à Moïse, il parle comme Dieu, comme s'il était Dieu. Comme s'il était Dieu. Si tu te présentes devant moi, tu mourras. Voilà. Se présenter devant le Seigneur, les Israélites savent qu'on ne peut pas se présenter devant le Seigneur parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et mourir. Pharaon est comme un dieu. Tu ne peux pas te présenter devant moi sans mourir. Voilà, on voit l'orgueil de Pharaon qui se révèle avec toujours plus de force. Et l'aboutissement, ce sera la mort. Et c'est ce que nous allons voir avec la question de l'endurcissement de Pharaon. J'en arrive à cette question dramatique, même tragique, de l'endurcissement de Pharaon. Vous vous souvenez que... Est-ce que jusqu'à présent, ça va ? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de revendications ? Voilà. On voit comment les choses progressent et... comment se situent les différents protagonistes et les différentes questions qui sont posées. Donc là, ce sont les signes qui n'ont rien fait d'autre que d'aboutir à l'endurcissement de Pharaon. Alors, L'endurcissant de Pharaon, c'est, on peut dire que c'est un processus, si on peut parler comme ça, qui commence dès le début du livre de l'Exode. Vous vous souvenez hein, des mesures prises par Pharaon à l'encontre du peuple d'Israël, des mesures malveillantes, hein, des mesures initialement cachées. Hein, prenons de sages mesures, hein, disait-il à ses ministres. Hein, voilà, il y en a qui les prennent de sages mesures. Mais les sages mesures, c'était quoi ? C'était de tuer les enfants mâles hein, d'Israël. Jusqu'au moment de l'envoi de Moïse, hein, jusqu'au chapitre, à la séquence, enfin, chapitre 3 à 6, la situation s'est aggravée, souvenez-vous. Hein, on va tuer les fils d'Israël, on va alourdir le travail. S'ils se plaignent, eh bien, on va leur demander de fabriquer encore plus de briques. Cet endurcissement, il est déjà là hein, depuis le début. Hein. Il s'enferme sans vouloir comprendre qu'il s'agit de la vie et de la mort d'un peuple. Hein. Alors, nous arrivons au moment où nous l'avons dit à la fin de la deuxième séquence, à partir du sixième signe, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Alors, si Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ça semble confirmer l'idée que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu violent. C'est quand même un petit peu ça qu'on a présent à l'esprit. Donc, voilà, il faut affronter cette question. En fait, il y a dans cette question de l'endurcissement de Pharaon par Dieu une explication théologique. La présence de Dieu, ça c'est une règle générale dans la Bible, mais qui s'explique assez bien, la présence de Dieu rend manifeste ce qui s'oppose à lui. On le verra dans l'Évangile. Première chose que Jésus fait dans l'Évangile, il va dans une synagogue, vous vous souvenez que c'est là qu'on a la première, on peut dire, confession, pas de foi, mais enfin de la reconnaissance de qui est Jésus, « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Et qui dit ça ? C'est le démon, c'est ça, un opposé, c'est le démon. Parce que le démon, il va très bien quand il se mêle un peu à tout le monde qui a des compromissions, mais quand on est en face de celui qui est le pur, le saint, c'est insupportable pour le démon. Vous voyez ? Hein ? C'est comme ça qu'on arrive à cacher le péché parce qu'on est tous il y a des compromissions. Si vous mettez une nappe toute blanche, eh bien, une tache de vin, ça apparaît. C'est pour ça qu'on a compris que notre maman mettait des nappes avec plein de fleurs. Voilà. Mais elle nous l'avait dit un jour. Elle avait dit ça. Quelquefois, ça simplifie le problème. Voilà. Hein, les taches disparaissent. Je pense que voilà, le secret, ça y est, j'ai dévoilé le secret. Quand on verra des nappes avec des fleurs. Voilà. Voilà. Eh bien, on peut dire que cette pureté de Dieu, elle rend manifeste le mal qui est en face de lui. Alors, c'est sûr que si le mal, comme c'est un processus qui va en s'amplifiant, c'est sûr que le mal lui-même se renforce devant celui qui reste Dieu et qui se manifeste comme Dieu. Plus l'homme s'enferme dans son refus, plus le refus paraît dramatique. Hein ? Pharaon, l'orgueil de Pharaon, c'est qu'il ne veut rien céder quand il voit le Dieu d'Israël intervenir. Hein, il ne tolère pas que quelqu'un soit plus grand que lui et intervienne. Donc, il grimpe. Hein. Non seulement les signes que Dieu donne mettent au jour les dispositions cachées de son âme, hein, mais encore, ils amplifient le drame. Plus ils sont forts, plus Pharaon s'enferme dans l'orgueil. Hein. Pharaon veut montrer à chaque fois, par la fermeté, la dureté de son refus, qu'il ne se laisse pas vaincre. On peut dire qu'il ne se laisse pas convaincre par le signe. Vaincre et convaincre. Même si le signe le met en danger. Ça, il y a déjà une expérience psychologique que nous faisons, mais également spirituelle. Hein, quand il y a une dispute au boulot, ou malheureusement quelquefois dans une famille ou n'importe où, eh bien on ne va pas lâcher le morceau, même si au fond de soi, notre conscience nous dit que peut-être qu'on a tort, peut-être qu'il y a quelque chose à écouter, peut-être que, etc. Donc c'est la logique du péché qui est guidée par l'orgueil. Et ça, c'est l'expérience humaine la plus basique. Mais quand on est le chef d'un peuple, qu'on est le roi, et que, en plus en Égypte, le roi était divinisé, et que le roi se prend lui-même pour Dieu, eh bien, ça prend des proportions absolument dramatiques. Et pourtant, Pharaon devra comprendre qu'il ne peut se mesurer à Dieu. Il a le sentiment de pouvoir le faire, puisqu'il est persuadé d'être son propre Dieu, il agit comme son propre Dieu, mais il ne peut pas aller au-delà de ce que son orgueil lui inspire. C'est ça, le drame de l'homme qui se met à la place de Dieu. Je le représenterai sous la forme d'une montagne. L'homme peut s'élever vers Dieu, c'est le propre de toute la religion païenne, et même du fond religieux de l'homme. Nous nous élevons vers Dieu, mais nous nous élevons avec les moyens qui sont les nôtres. Quand on veut se mettre à la place de Dieu, on n'a rien d'autre que les ressources de son propre orgueil. Ou plutôt, ça devient de l'orgueil. Je m'élève vers Dieu, mais je ne peux pas aller au-delà de ce que mes ressources me donnent. Finalement, l'orgueil, il y a un moment ou un autre, il me fait découvrir mes propres limites. Alors, c'est insupportable. Alors, je me durcis de plus en plus. Alors, Dieu, on peut dire que ce n'est pas la montagne qui monte comme ça. C'est plutôt la montagne inversée, c'est-à-dire Dieu qui se penche vers l'homme. Mais la sainteté de Dieu et la puissance de Dieu est infinie, même si elle respecte l'homme. Donc, il y a vraiment une opposition. Pharaon ne peut pas aller au-delà de ce qu'on orgueil lui inspire. Il n'a pas de pouvoir sur la création, pas même sur sa propre mort. L'homme le plus orgueilleux, le plus tyran que la terre puisse posséder, il y a un moment, il meurt. Et il est à égalité avec tous les autres. C'est pour ça que la question de la mort va se poser. C'est Dieu qui reste maître dans ce drame. Au point d'être capable d'intégrer dans son dessein rédempteur ce qui s'oppose à lui. Il faut bien comprendre que dans la logique de la Bible, nous ne sommes pas, et surtout dans l'Ancien Testament, dans une logique de condamnation et de dénonciation du mal, il y a une rédemption, y compris pour Pharaon. Même si pour Pharaon, la situation va devenir dramatique. Dieu va être capable d'intégrer, de récapituler dans son dessein, jusqu'à l'opposition de Pharaon. Et c'est la raison pour laquelle on dit « Dieu endurcit le cœur de Pharaon », c'est-à-dire « Dieu garde les commandes ». Voilà. Il se serait bien passé que Pharaon refuse, que Pharaon s'endurcisse, mais dès lors que Pharaon entre dans ce jeu, eh bien Dieu, il aura toujours une longueur d'avance sur Pharaon. Le père Guéguin, avec pas mal d'humour, disait « T'as envie de jouer à l'imbécile ? Eh bien, joue ensemble, c'est pas sûr que ce soit toi qui gagne ». Voilà, c'est avec un certain humour, mais vous savez, je prends souvent la comparaison avec l'ado. Je ne dis pas les ados que nous voyons, l'ado que nous avons été. Ça change un peu les choses, parce que souvent on dit les ados, oui, mais on a été ados. Il faut se souvenir à quel point, je crois que les parents ne diront peut-être pas forcément le contraire, parce que des fois les ados sont capables d'être infiniment casse-pieds. d'une espèce d'enfermement et les parents, il y a un moment disent, soit on est comme ça, on se dit ok, tu veux jouer à l'imbécile, ben on va voir qui va gagner puis à un moment l'ado se rend compte qu'il il peut plus aller plus loin il découvre qui est véritablement qui sont ses parents, quelle est la réalité, etc. Voilà, Dieu reste maître, et si Pharaon veut jouer ce jeu là d'une certaine manière, on peut dire que Dieu accepte de le jouer pour que Pharaon se rende compte que même là, le Seigneur est présent. Comme le dit le psaume, « Je monte dans les cieux, te voilà, je vais jusqu'au fond des abîmes, tu es encore là. » Le Seigneur, il englobe l'univers. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du panthéisme où on voit Dieu partout, mais nous ne sommes que des créatures et nous devons l'apprendre. Et l'orgueil le fait découvrir de façon négative, mais Pharaon le découvre à ses dépens aussi. Est-ce que cette question de l'endurcissement de Pharaon, ça va, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui reste pas forcément ?
Pourquoi 10 fois ?
Pardon ? Pourquoi ? Alors, le chiffre 10, c'est une manière un peu systématique de présenter les choses. C'est un chiffre qui revient souvent dans la Bible. On voit qu'il y a les 9 signes. Et là, on va arriver au 10e signe qui va devenir une plaie, c'est-à-dire le moment où Pharaon va être touché dans sa chair, c'est-à-dire que Dieu va enfin toucher Pharaon, puisque jusque-là, il n'a pas été capable, jusqu'au bord de la mort, jusqu'au bord dans les ténèbres dans lesquelles il est plongé, donc dans cette replongée dans le chaos de la création, d'avant la création, même là, il ne bouge pas, là, il va être atteint au plus profond de lui-même. Voilà. Mais voilà, je reviens sur la question de l'endurcissement. L'endurcissement de Pharaon, dit autrement, c'est Pharaon qui s'est endurci. C'est Pharaon qui s'endurcit. C'est Pharaon qui se dresse contre Dieu. Dire que Dieu endurcit Pharaon, ça veut dire que même cet acte par lequel Pharaon se détourne de Dieu, eh bien Dieu va le reprendre à son compte pour pouvoir réorienter Pharaon sur un chemin de salut. Et quel est ce chemin de salut? C'est que Pharaon se rende compte à un certain moment qu'il y a un Seigneur, il y a un Dieu qui est plus grand que lui. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, jusque dans la mort. Et Dieu ressaisit cette attitude de Pharaon, qu'il n'a pas voulu au départ, il l'a ressaisie dans un dessein de salut. Bon, éventuellement, on reprendra après s'il le faut. Voilà. Alors, j'aborde la question de la plaie. Comme on a bientôt fini, on aura le temps d'avoir quelques questions. Rien n'a changé dans le cœur de Pharaon. On se souvient qu'un autre Pharaon, la question des signes avait déjà été posée avec Joseph, qui était capable de comprendre les signes. Et face à une énigme, en s'en remettant à la sagesse de Joseph, un autre Pharaon avait trouvé une issue. Ici, Pharaon s'enferme dans son orgueil. Plus Dieu a multiplié les signes, plus il s'est obstiné dans son refus. Pour celui qui s'enferme de cette manière, le signe devient opaque et produit l'effet inverse de l'effet qui était voulu. Donc, on peut multiplier les signes. Pour Pharaon, il s'est enfermé dans sa logique. Ça, on le voit bien avec quelqu'un. Pas simplement les autres, mais nous le voyons bien avec nous-mêmes quand nous sommes dans notre logique. Je ne veux pas lâcher le morceau, je ne veux pas reconnaître que c'est moi qui ai tort, je ne veux pas reconnaître que ceci, cela. Et bien, on va s'enfermer jusqu'au bout, même si à un moment, on se dit, mais la position devient intenable. Mais je ne peux pas reconnaître le moment où j'ai peut-être un peu excessif. Alors, on va aller jusqu'au bout. Donc, Pharaon est finalement prisonnier de son propre orgueil. Et le signe ne serve plus à rien. Au contraire, il s'enferme davantage. Encore une fois, ce sera une problématique dans l'Évangile. Pareil, Jésus ne fit pas de miracle parce qu'il n'y avait pas de foi et ça ne servait à rien. Montre-nous un signe. Comme signe, ça n'aura pas donné d'autres signes que Jonas, qui a appelé à la conversion et les Ninivites se sont convertis. Donc c'est la question de la conversion. Donc le signe ne suffit plus. Vous voyez, on a commencé par un prodige, 9 signes qui représentent une pédagogie. Maintenant, on va avoir une intervention directe de Dieu dans l'existence de Pharaon qui va le pousser à changer. Ce ne sera plus un signe, ce sera une plaie. Pharaon va être frappé dans sa chair. Comme vous voyez, la plaie, c'est un vocabulaire qui est, on peut dire, je ne sais pas si on veut dire médical, enfin physique. Il y a quelque chose qui dit, Pharaon va être atteint. Cette plaie, c'est la mort des premiers-nés des Égyptiens. Alors, cette thématique, évidemment, elle nous ramène au début de l'Exode, quand Pharaon avait décrété la mort des enfants mâles d'Israël, des garçons. Ça veut dire, c'est la disparition complète du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on emploie le terme de génocide, depuis quelques dizaines, depuis 44, je crois. C'est quand même ça. Tous les enfants mâles du peuple d'Israël devaient disparaître. C'est quelque chose d'absolument dramatique. Cette plaie est comme une réponse à cette mesure, avec une différence importante. Ce n'est pas la disparition complète des Égyptiens qui est annoncée, mais seulement la mort des premiers-nés. Vous voyez ? Le premier-né symbolise toute la famille, mais il ne s'agit pas de faire disparaître les Égyptiens, il s'agit de les atteindre dans leur chair. Voilà. Alors l'épisode final, où là Pharaon se rend compte de ce qui se passe, va se rendre compte de ce qui se passe, il se rendra compte de ce qui se passe et il se décidera à laisser partir le peuple, à reconnaître qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Dans l'immédiat, il ne cède pas, donc on aura tout le passage du chapitre 12 et 13 sur la préparation de la libération avant qu'il y ait vraiment la mort des premiers-nés. Hein. Et c'est intéressant de voir que le peuple égyptien se détourne de lui. Hein. Donc on voit la figure de Pharaon se dresser seul contre Dieu. Voilà. Alors, conclusion. On a comme un effet de miroir avec une double révélation. Hein. La réalité du péché et la puissance rédemptrice de Dieu. On voit comment les interventions de Dieu révèlent une pédagogie. Dieu envoie à l'homme des signes comme moyen pour le faire sortir du cercle mortifère de son orgueil. L'Exode est pour nous, je pense que de tous les livres de la Bible, c'est sûrement un des plus puissants pour cela, l'Exode nous offre un itinéraire spirituel qui est comme un reflet de notre âme et de notre propre combat avec le péché, avec la question de l'orgueil, avec la question de la relation à Dieu. Est-ce que j'accepte de reconnaître la seigneurie de Dieu? On le verra peut-être davantage la prochaine fois ou la fois d'après, la question du service. Servir Pharaon ou servir Dieu. On en avait parlé à propos du travail. Le travail, c'est servir Pharaon, mais servir Pharaon, c'est un service qui écrase, parce que servir quelqu'un pour lui-même, alors que servir Dieu, c'est devenir serviteur, participer à son œuvre. Voilà. Tout cela, cet itinéraire spirituel que nous montre l'Exode, eh bien, nous dit aujourd'hui qu'il y a des signes que Dieu nous donne. Que faisons-nous de ces signes? Savons-nous les reconnaître? La question a été posée à Pharaon. Allait-il écouter le Seigneur pour laisser Israël partir d'Égypte? Il ne l'a pas fait. Il n'a pas reconnu les signes que Dieu a donnés aux Égyptiens. Les signes, les plaies d'Égypte concernaient les Égyptiens. Maintenant, la question va être posée à Israël. Est-ce que Israël sera capable de reconnaître l'action de Dieu auprès de lui, et que fera-t-il des signes que Dieu lui donnera pour le libérer? On verra tous les signes du livre de l'Exode, et on verra que pour Israël, le chemin ne sera pas facile non plus. Voilà. Il est 10 heures tout juste, je ne sais pas si les complices c'est 10 heures ou un peu après. Est-ce qu'il y a le temps juste pour 2 ou 3 questions? Oui? Oui.
Pourquoi l'auteur fait cette nuance? Et justement, lui, au début, il dit que c'est Pharaon qui endurcit son cœur, et puis après, il dit que c'est le Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Quel est le sens de cette nuance dans le texte, si dans le fond, c'est le même processus?
Dieu endurcit le cœur de Pharaon, c'est-à-dire Dieu va pousser Pharaon jusqu'à... Alors ça, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit ou suffisamment clairement, mais il va le pousser jusqu'à à réaliser... à réaliser où le conduit cet enfermement, c'est-à-dire qu'il le maintient dans la situation dans laquelle il est. On peut dire d'une certaine manière que c'est ce qui se passe, c'est un moment où l'homme, à force de refuser Dieu, il y a un moment où il y a un caractère définitif des choix qu'il fait, et Pharaon est enfermé dans ce choix définitif, et c'est là qu'il va être touché dans sa chair, réalise enfin ce que tu es en train de faire. Jusqu'à présent, c'est Pharaon qui était dans cette espèce de refus, même pas poli. Enfin, le refus poli, on l'a souvent dans la Bible. Là, c'est un refus de plus en plus dur. Là, cette fois-ci, c'est Dieu qui reprend les choses en main en disant voilà ce que tu es. Tu es dans cet état d'endurcissement, et voilà ce que maintenant je vais faire pour que tu ouvres enfin les yeux. Le caractère total et enfermant et définitif de ce que Pharaon est en train de dire, cette fois-ci, c'est Dieu qui prend les commandes. C'est un peu pour ça que j'ai pris l'image du père Guéguin qui dit « t'as envie de faire l'imbécile, écoute, on va jusqu'au bout, mais dans ce cas-là, ça va te réveiller. » Oui.
Est-ce qu'on peut dire que Pharaon, au début, n'était pas conscient de son orgueil? Et que à partir du moment où on dit que c'est Dieu qui endurcit, on dit que c'est Dieu, à ce moment-là, est-ce qu'il ne prend pas conscience?
Je ne sais pas si on dit pas que Pharaon prend conscience. Il est dès le départ dans une attitude d'orgueil, puisqu'il veut faire travailler les Israélites pour son service. Prenons de sages mesures, ça révèle quand même que quand il dit de tuer les premiers enfants, c'est qu'il a peur pour lui-même, pour sa royauté, un peu comme on verra avec Hérode, mais prendre conscience de son orgueil, je ne suis pas sûr qu'il en prenne vraiment conscience. Alors dans le récit, il en prendra conscience au moment du passage de la mer, parce que là, il va être englouti. Mais jusque-là, on ne donne aucun signe qu'il en ait pris conscience. Ça va? Pas d'autres... Voilà, bah écoutez, bonne... alors voilà, là c'était la séance un peu rude, hein, mais avec le beau message, Dieu nous envoie des signes.
Est-ce que nous sommes assez humbles pour les accueillir tels qu'ils sont, à nous remettre en cause nous-mêmes, pour savoir qu'à chaque fois, le signe m'ouvre sur le chemin de vie, et que même pour celui qui s'enferme dans le péché, c'est ça qui est extraordinaire, même pour Pharaon, il y a la perspective d'une rédemption. Ça, c'est très très important. La prochaine fois, nous verrons. La prochaine fois, nous verrons les chapitres.